Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 10e épisode de Mater Radio, un rendez-vous mensuel proposé par l'Institut Chevreul, une fédération de recherche sur la chimie et sur les matériaux qui donne la parole aux doctorantes et aux doctorants de ces laboratoires. Une émission présentée par moi-même, je m'appelle Elisa Després et je suis chargée de médiation scientifique dans cet institut. Aujourd'hui, on va parler de lumière et de matériaux et pour traiter ce sujet, je suis en compagnie de Nour Alajar. Bonsoir Nour.
Bonsoir Elisa.
Tu es doctorante en deuxième année au LASIR, le laboratoire avancé de spectroscopie pour les interactions et la réactivité et l'environnement. Ton sujet de thèse s'intitule « Spectroscopie ultra rapide par laser femtoseconde de catalyseurs solides hétérogènes photoactifs pour la conversion du méthane ». Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer l'objectif de ta thèse ?
Bien sûr, mon objectif de thèse, c'est d'améliorer la conversion du méthane. C'est un gaz à effet de serre très puissant. En molécules utiles, comme le méthanol par exemple, en utilisant la lumière. Pour ça, j'étudie des photocatalyseurs. Pour ce moment, ce sont à base de dioxyde de titane. Et j'essaye de comprendre à l'échelle ultra rapide, c'est en femtoseconde, c'est-à-dire 10 à l'exposant moins 15 secondes, comment les électrons et les trous se comportent juste après l'excitation par la lumière. L'idée, c'est d'optimiser la composition du matériau et aussi pour... À ce temps-là pour maximiser la séparation des charges et donc l'efficacité de la réaction en étudiant l'effet de la composition du catalyseur sur la séparation des charges.
D'accord. Et alors, pourquoi il faut convertir le méthane ?
Le méthane, c'est un gaz de serre, à effet de serre, très puissant. C'est environ 80 fois plus réchauffant que le dioxyde de carbone, le CO2, sur une période de 20 ans. Il est émis naturellement, mais aussi en grande quantité par les activités humaines, comme les extractions du gaz naturel et agriculture. Alors, le convertir, c'est donc éviter qu'il ne s'accumule pas dans l'atmosphère et participe au réchauffement climatique, mais aussi le valoriser. Le méthane peut être transformé en composés utiles comme le méthanol, l'éthane, qui sert de carburant, des solvants ou matières premières chimiques. Et aussi, il constitue une réserve de carbone et d'hydrogène. Et c'est une manière de faire d'une pierre deux coups, réduire l'impact environnemental tout en produisant des ressources utiles.
Ok. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on sait déjà le faire ?
Oui, on sait déjà convertir le méthane, mais principalement à haute température avec des procédés très énergivores. Ces méthodes posent des problèmes de sécurité, notamment à cause du risque d'explosion. Quand on mélange du méthane, par exemple, avec de l'oxygène, surtout en présence de chaleur. Et c'est pour ça qu'on cherche aujourd'hui des méthodes plus douces, comme la photocatalyse qui utilise la lumière pour activer la réaction à température ambiante. C'est encore au stade de la recherche, mais ça pourrait permettre à l'avenir une conversion plus sûre, plus propre et plus sélective sans avoir besoin de gros équipements industriels.
Du coup, cette conversion, elle est difficile à réaliser.
En fait, oui, c'est une conversion très difficile à réaliser car principalement le méthane, c'est un carbone lié à 4 hydrogènes, CCH4. Et cette liaison entre le carbone et l'hydrogène a une grande stabilité et elle nécessite beaucoup, beaucoup de l'énergie pour le casser. Et cela signifie qu'il faut des conditions dures, les températures élevées ou fortes doses de la lumière pour activer cette liaison. Et quand on fournit autant d'énergie, on a tendance de perdre le contrôle de cette réaction. Au lieu de produire d'un composé utile, on peut finir à juste brûler le méthane totalement ou en formant juste du dioxyde de carbone. C'est donc coûteux à la fois en énergie et en sélectivité. On dépense beaucoup pour peu de produits utiles, ce qui n'est pas viable. viable, ni écologiquement, ni économiquement.
Mais alors, pour faire cette conversion, comment tu t'y prends ?
Pour faire cette conversion, on fait la photocatalyse. Et pour étudier cette conversion, j'utilise la spectroscopie résolue en temps. Concrètement, je travaille avec des impulsions laser ultra brèves de durée de 100 femtosecondes, de l'ordre à une fréquence de 100 kHz, donc une impulsion toutes les millisecondes. Le laser est divisé en deux faisceaux. Je veux expliquer le setup de l'instrument que je travaille. L'un sert de pompe pour exciter, pour éveiller l'échantillon, et l'autre de sonde pour suivre l'évolution des dynamiques électroniques en temps réel. Cela me permet d'observer à l'échelle ultra rapide ce qui se passe après l'absorption de lumière dans le matériau photocatalytique.
Très bien. Et donc, tu nous as parlé aussi d'un catalyseur. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ?
Oui, le catalyseur, c'est une substance qui permet de déclencher ou d'accélérer une réaction chimique sans être consommée pendant cette réaction. C'est un peu comme un chef d'orchestre. Il organise tous les musiciens, mais sans jamais jouer l'instrument lui-même. Le photocatalyseur absorbe l'énergie lumineuse et le transforme en énergie chimique, tout en restant intact à la fin de la réaction. Et aussi, il peut recommencer le processus plusieurs fois. Et aussi, il peut contrôler la réaction. Par exemple, si on utilise ce type de catalyseur, on a une production du produit A, mais si on change d'autres types, on a un produit B, par exemple.
Et justement, du coup, quel type de catalyseur tu utilises ?
Pendant mon doctorat, j'utilise deux types de catalyseurs. Le premier, ce sont des semi-conducteurs comme le dioxyde de titane, dioxyde de cerium, oxyde de zinc. Et ces semi-conducteurs, car on peut l'exciter dans l'UV. Et aussi les zéolithes, ce sont des matériaux poreux. Ils possèdent comme des cages pour piéger ou absorber le méthane. Et aussi pour réagir avec la lumière.
Et donc, pour le laser, tu utilises la technique de la spectroscopie ultra rapide. Donc, qu'est-ce que c'est ?
Oui, exactement. J'utilise ce qu'on appelle la spectroscopie ultra rapide, et plus précisément en femtosecondes. C'est une technique qui permet de suivre les réactions chimiques à une vitesse incroyable, presque en temps réel. Une femtoseconde, c'est un millionième de milliardième de seconde. Pour te donner une idée, c'est à peu près le temps qu'un électron, mais pour changer d'état dans un matériau après avoir absorbé la lumière. C'est une avancée majeure pour la recherche, car on peut voir ce qui se passe tout de suite après l'absorption de lumière, avant même que la réaction soit terminée. Et ça, c'est essentiel pour comprendre et améliorer les matériaux comme les photocatalyseurs.
On parle donc d'un laser extrêmement rapide. Est-ce que tes tests sont rapides à faire également ?
Pas du tout. Même si le laser est extrêmement rapide, les mesures prennent beaucoup de temps. Il faut premièrement préparer les échantillons très soigneusement et ajuster les paramètres du laser. Il faut détecter la référence, le signal, minimiser le bruit dans les mesures, et détecter le signal aussi après l'absorption de l'échantillon. Et je travaille avec l'infrarouge, c'est invisible, alors toutes ces optimisations prennent vraiment du temps.
Et le but à terme, du coup, est-ce que c'est de commercialiser la technique ?
À terme, ce n'est pas encore directement la commercialisation, mais plutôt de mieux comprendre les premières étapes de la réaction, celles qui se passent à des échelles de temps ultra rapides et qui sont encore mal connues aujourd'hui ou n'est pas très connues. L'idée, c'est que plus on comprend ces mécanismes fondamentaux, mieux on pourra ensuite concevoir des catalyseurs plus performants, plus sélectifs, et adapté à une utilisation industrielle. Donc, on est encore dans la phase de la recherche fondamentale, mais c'est une étape essentielle pour un jour rendre ce type de technologie plus propre, plus efficace et exploitable à grande échelle.
C'est une thèse en collaboration avec plusieurs laboratoires. Est-ce que tu peux nous les citer?
Oui, bien sûr. Ma thèse s'inscrit dans le cadre du projet Pulse Comet, financé par l'Agence nationale de recherche, ANR. Et c'est une collaboration entre 4 laboratoires français, l'ASIR à Lille et IPR en Rennes. Ces deux laboratoires font la spectroscopie résolue en temps et aussi l'UCCS, unité de catalyse de chimie et de chimie solide, et LCS en Caen. Ces deux laboratoires, ils synthétisent les matériaux.
Ça permet que chacun amène sa spécialité, j'imagine.
Oui, chaque laboratoire apporte une expertise complémentaire.
Je te propose maintenant qu'on revienne sur un peu sur ton parcours et sur les motivations qui t'ont amené à faire de la recherche. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles études tu as suivies?
Oui, c'est un peu varié. J'ai commencé mes études dans le domaine de la médecine, puis en biochimie. Mais au bout d'un moment, j'ai décidé de suivre ma passion d'enfance, c'était la physique. J'ai donc repris un cursus en physique et j'ai poursuivi avec un master en physique des matériaux. Et c'est là que j'ai commencé à me spécialiser dans la préparation et les caractérisations des nanomatériaux, par exemple, en particulier pour des applications environnementales. Comme disait Einstein, « I have no special talent, I am only passionately curious ». Et c'est vraiment cette curiosité qui m'a guidée tout au long de mon parcours.
Et donc, tu as fait un master en physique des matériaux. Pourquoi avoir choisi les matériaux?
Parce que les matériaux sont au cœur de nombreuses innovations, surtout en lien avec l'énergie, l'environnement ou même la santé. Je trouvais fascinant de pouvoir les manipuler à l'échelle nanométrique pour faire des choses étonnantes, par exemple dégrader les polluants organiques. Et aussi les nanomatériaux, ils ont des propriétés uniques grâce à leur rapport surface sur volume élevé. Cela améliore ces activités chimiques ou catalytiques, ou par exemple la conductivité.
Et au cours de ce master, est-ce que tu avais une spécialité?
Oui, je me suis spécialisée dans la préparation et la caractérisation des nanomatériaux et une partie de mon travail portait sur la photodégradation des colorants et de polluants organiques, ce qui m'a poussée à m'intéresser à ce qui rend un matériau photocatalytiquement efficace. Mais pendant mon doctorat, je ne synthétise pas les matériaux, je fais la spectroscopie résolue en temps et c'est plutôt à l'échelle subatomique pour bénéficier de ces connaissances et préparer des catalyseurs plus efficaces.
Tu parles beaucoup d'environnement. Est-ce que c'était important pour toi de trouver un doctorat avec du sens?
C'est pas l'environnement qui m'a intéressée. Mm-hmm. En fait, pendant mon master, j'ai travaillé sur des matériaux censés être photocatalytiquement actifs, d'après la littérature. Mais dans mes propres expériences, ils ne montraient presque aucune activité. J'ai essayé plusieurs fois, changé les conditions, rien à faire. Plutôt que de me décourager, cette contradiction m'a intriguée. Pourquoi ça ne marche pas chez moi et qu'est-ce qui m'échappe? C'est vraiment là que mon intérêt pour la photochimie s'est développé. Et quand j'ai découvert cette thèse sur la conversion du méthane par la lumière, j'y ai vu une suite logique, une façon de pousser plus loin cette exploration tout en combinant les matériaux, la lumière et des techniques avancées comme la spectroscopie résoluante.
Donc tu travailles sur l'interaction entre la lumière et la matière. Est-ce que c'est quelque chose qui te passionne ?
Oui, énormément. C'est une interaction à la fois fondamentale et fascinante et pleine de défis et encore de mystères. Ce que je trouve particulièrement captivant, par exemple, on ne peut pas voir les électrons, les protons par l'œil nu. On ne peut pas, par exemple, casser l'atome et voir. On fait ce type d'analyses, des expériences et on obtient des signaux, on l'analyse, on l'explique pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans la matière.
Et donc, tu as toujours voulu faire de la recherche ?
Oui, au fond de moi, j'ai toujours eu cette envie de laisser une trace, de faire quelque chose qui puisse vraiment avoir un impact. Mon objectif dans la vie, c'est un peu subjonctif, c'est qu'un jour, quand je ne serai plus là, je puisse me dire que j'ai apporté quelque chose de bien à l'humanité. Et pour moi, la recherche, c'est justement ça. Chercher à comprendre le monde, repousser les limites de ce qu'on sait et peut-être un jour contribuer à une solution qui compte.
C'est chouette. Et donc toi, Nour, tu viens du Liban. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a poussé à venir en France ?
Oui, je viens du Liban. En fait, la France a une forte tradition en physique et en chimie, avec des laboratoires très bien équipés et une vraie culture scientifique. J'ai eu l'opportunité de faire ma thèse ici dans un cadre européen, avec des partenaires très connus dans le domaine. C'était vraiment tremplin.
Et au quotidien, comment se déroule ton travail ?
Ça varie beaucoup. Il y a des jours où je suis au labo à préparer les échantillons, d'autres où je fais des expériences avec le laser. Et parfois, je passe la journée à analyser les données, à dessiner avec Python ou à écrire, à lire des articles. C'est très dynamique et c'est ce que j'aime.
Tu travailles avec d'autres doctorants ou d'autres chercheurs ?
Oui, je fais partie d'un projet collaboratif entre plusieurs laboratoires. Je suis entourée des doctorants, de post-docs et de chercheurs confirmés. Et on échange beaucoup, chacun avec son expertise.
Et justement, comment se déroulent ces collaborations ?
On communique régulièrement, parfois en visio, parfois en déplacement. Chacun joue un rôle dans le projet. Certains préparent les matériaux, d'autres font des caractérisations. Et moi, je m'occupe de l'étude des dynamiques ultra rapides. Ce travail en équipe est super enrichissant.
Est-ce que tu participes à des conférences ?
Oui, je participe régulièrement à des conférences et récemment, j'ai présenté mes résultats lors d'une conférence internationale à Calais. C'était devant un public de spécialistes des matériaux, un peu impressionnant, mais très enrichissant. C'est toujours motivant de partager les travaux, d'avoir des retours, de se sentir pleinement intégré dans la communauté scientifique.
Et justement, concrètement, comment ça se passe quand on doit intervenir dans une conférence ?
On prépare une présentation synthétique des résultats, on échange avec d'autres chercheurs, on assiste à des exposés passionnants. C'est aussi l'occasion de faire connaître son travail, d'avoir des retours et même parfois des nouvelles idées.
Tu es quand même une jeune scientifique. Est-ce que ce n'est pas stressant de présenter les avancées de son travail parfois face à des personnes un peu plus âgées ?
Bien sûr, ça peut l'être, surtout la première fois, mais j'ai réalisé que ce qui compte, ce n'est pas l'âge ou le titre, c'est d'être clair, honnête sur les résultats et ouvert à la discussion. Et puis on apprend à se faire confiance.
Qu'est-ce que tu voudrais faire après le doctorat ? Est-ce que tu as différentes possibilités ?
Oui. On a deux possibilités généralement, c'est ou continuer en recherche ou avec une entreprise. Pour le moment, je réfléchis.
Pas de préférence pour le moment.
Ça dépend sur les positions.
Ok. Pour finir, j'ai une question qu'on pose à chaque fois. Quel conseil donnerais-tu à des jeunes qui seraient intéressés pour faire de la recherche ?
Je leur dirais, n'ayez pas peur de la curiosité. Posez des questions, explorez, osez échanger de voir si quelque chose vous passionne vraiment. Et surtout, ne vous découragez pas si c'est difficile au début. La recherche, c'est un chemin plein de défis, mais aussi de découvertes incroyables.
Merci Nour pour toutes ces réponses. On se donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine Maté Radio. Bonne soirée à toutes et à tous.